Par exemple, dans la théorie des ensembles, on a d'abord un premier ensemble qui est l'ensemble de la classe des êtres vivants, qu'on vous appelle en logique le genre prochain. Mais dans cet ensemble de la classe des êtres vivants, il y a l'homme et d'autres êtres. Par conséquent, le mot animal ou vivant ne suffit pas à définir l'homme. C'est trop large.
C'est le genre prochain.
Vous voyez qu'on procède par approximation. Et on va dire plus et ensuite on va dire moins. C'est clair?
Et donc, dans cet ensemble des êtres vivants, il faudra caractériser le sous-ensemble propre uniquement à l'homme. Quelle est la différence spécifique à l'homme qu'on ne trouve pas chez les autres êtres vivants? C'est là que vient l'adjectif. Et donc, en général, la philosophie a préféré le caractère spécifique de pensant ou raisonnable, ça veut dire doué de raison. Bien.
Cette définition n'est pas fausse. Il est bien évident que ce qui différencie l'homme des autres êtres vivants, c'est la capacité de la pensée, qui est chez l'homme d'une envergure considérable par rapport aux autres êtres vivants. Mais elle n'est pas suffisante, elle n'est pas suffisamment exacte. Pourquoi? Eh bien parce que finalement, on sait bien, et d'ailleurs, ce n'est pas encore la réponse que je cherche de tout à l'heure, on sait bien que les animaux pensent. Et par conséquent, il ne suffit pas de dire le vivant pensant pour avoir établi la caractéristique spécifique de l'homme par rapport aux animaux. Est-ce que c'est clair? Et alors vous allez me dire, mais et les philosophes se sont trompés, ils ne savaient pas que les animaux pensaient. Mais ils avaient une sorte de postulat que la pensée chez l'animal n'est pas de la pensée. Mais aujourd'hui, on tend à modifier un peu cette conception. Qu'est-ce que c'est que la pensée à l'échelle la plus rudimentaire? La faculté de d'abstraire. Non, c'est un des éléments. La faculté d'abstraire, c'est l'abstraction. C'est pas la pensée. Attends, dis mieux, dis plus. Répète.
De sortir, enfin, de sortir de là et de s'observer en tant
que sujet. C'est pas clair, qu'est-ce que tu veux dire? Rien, tu me trouves mes cigarettes sur mon bureau.
C'est
que...
Hein? Ça nous met de distance, d'être capable de...
Attends, réfléchis deux minutes, ça vaut la peine, et dis clairement ce que tu veux dire. J'ai pas l'impression que ce soit la réponse, mais je voudrais savoir à quoi tu penses. Une minute.
La capacité de créer une distance
entre eux.
Entre l'acte et enfin, quelque
chose. Non, j'ai posé comme question, qu'est-ce que ça veut dire penser? Vous voyez, pendant, ça veut dire déjà 6 mois qu'on pense ensemble, on ne sait pas ce que ça veut dire penser. Et ce à quoi tu fais allusion, toi, j'ai l'impression, c'est à ce qu'on appelle avoir conscience de se représenter un objet de représentation. Je crois que tu fais allusion à une distance entre le sujet qui pense et l'objet de sa pensée. Okay? Donc, le mot de Hacne, c'est la définition du phénomène de la conscience. Quand j'ai conscience de quelque chose, en même temps, je prends conscience de moi. Non, la pensée, c'est pas la conscience. Par exemple, si tu as une émotion, enfin, disons, une affection, okay, une piqûre d'aiguille, tu prends conscience d'une douleur, c'est pas de la pensée. Et si tu dis, bon, c'est déjà de la pensée rudimentaire, c'est une façon de parler, c'est pas vraiment de la pensée dans le sens logique. C'est clair? C'est de la conscience. Ça veut dire que, toi, en tant que sujet, tu as conscience d'une représentation qui t'affecte. Et dans le fait de te représenter cette représentation, tu es présent à toi-même. C'est le phénomène de la conscience. Être conscient de quelque chose, et par ce biais-là, je suis conscient de moi-même. Est-ce que c'est clair? Ça n'a rien à voir avec la pensée, parce que c'est beaucoup plus large. Une émotion est un phénomène de conscience.
Mais il y a l'émotion où il y a la conscience mécanique qui fait réagir. Un animal sent la douleur.
C'est pas de la pensée, c'est de la conscience. Bon, c'est pas seulement pas. Donc, tout à l'heure, voilà, je voudrais un peu reprendre l'analyse. Je vous ai dit, on sait aujourd'hui que l'animal pense, pas dans la même envergure que l'homme, mais il pense. D'où ma question, qu'est-ce que c'est que la pensée? Après, nous aurons une minute. Ah, très bien. Mais après, nous aurons une autre question. Et est-ce que l'animal ne parle pas? C'est un autre problème. Okay. Qu'est-ce que tu as dit, hein? Et très bien, c'est ça la réponse. Penser, c'est établir des relations entre des représentations. Et c'est pourquoi, et on a l'habitude de dire en logique, que la forme élémentaire de la pensée, c'est ce qu'on appelle le jugement. Un jugement, c'est la pensée d'une relation entre deux termes. Je juge, quand je dis par exemple le ciel est bleu, ça veut dire je juge que le ciel est bleu. J'ai établi une relation entre l'idée de ciel et l'idée de bleu, ou entre l'image de ciel et l'image de bleu. Vous comprenez? Bon, il y a toute une série de jugements de nature différente. Au fond, c'est ça au fond un peu ce qui nous gêne dans l'étude, c'est qu'il vous manque préalablement, il vous a manqué des études de logique. Et en général, en terminale, on avait tout un programme d'études de logique et on savait que ça, comment fonctionne la pensée. Vous verrez, moi, si j'ai un conseil à vous donner, si vous voulez approfondir quoi que ce soit dans la sagesse, commencez par faire de la logique. Vous verrez à quel point ensuite vos études seront beaucoup plus précises, riches et ordonnées. Alors, des manuels de logique, ça existe. Vous achetez un manuel de logique, vous apprenez de quoi il s'agit. C'est pas difficile. Comment on établit des jugements? Comment on établit des raisonnements? De quelle nature sont les jugements? De quelle nature sont les raisonnements? Quelles sont les hypothèses qu'on peut avoir par rapport à certains postulats? Quelles sont les hypothèses qui sont a priori fausses? Celles qui peuvent être vraies? Et comment on vérifie une hypothèse vraie dans un raisonnement? Vous n'avez jamais appris cela dans votre programme de terminale. Donc, toute l'étude des syllogismes, des raisonnements... Bon, c'est ça qu'il faut avoir bien comme structure de la pensée. Bon. Or, il est évident que les animaux sont capables, et suivant l'évolution des espèces, chacune dans son envergure, sont capables d'établir des relations entre des termes de connaissance. Par conséquent, la pensée existe chez l'animal, bien que de manière extrêmement rudimentaire. Ou si vous voulez, d'une certaine manière, il suffit d'avoir un cerveau, et si vous avez étudié en biologie, la structure d'un cerveau, mais vous savez très bien que même à l'échelle la plus rudimentaire, ou même s'il ne s'agit que de ganglions, comme par exemple chez les insectes, eh bien, il y a deux lobes qui sont reliés par ce qu'on appelle tout un faisceau de fibres qu'on appelle le corps calleux. Vous avez appris cela? Et vous voyez bien que le cerveau est une sorte de machine qui permet de serguer la représentation dans le sens de relation entre des termes. Bon. Et par conséquent, d'une certaine manière, on peut dire que la pensée est une des fonctions biologiques, ce qui se rattache biologiquement au cerveau. Et donc, le corps, à un certain niveau d'évolution, est une machine qui permet de penser. Donc, et par conséquent, ce n'est pas ce qu'on cherche dans la définition spécifique de l'homme. Le fait que la pensée chez l'homme est d'une toute autre envergure que chez l'animal vient d'ailleurs. Bon, alors maintenant je reprends ma question. Et après on a une question subsidiaire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire que l'animal pense, que l'animal parle? En fait, l'animal est capable d'exprimer des signes. Mais des signes, c'est beaucoup plus large que la parole. N'importe quoi peut être signe. La danse, c'est un signe. Par exemple, chez les abeilles. Il y a un langage par signe. Mais ce n'est pas le langage par la parole. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans la parole? Pourquoi, en fin de compte, la tradition juive a choisi plus la définition de vivant parlant que de vivant pensant? Et à partir du moment où on aura compris ce qu'est le vivant parlant, on comprendra pourquoi la pensée chez l'homme et d'une telle envergure par rapport à la pensée rudimentaire chez l'animal. Je cite d'ailleurs ce que dit la Midrash à propos de Amalek. C'est relié au doute. Il n'y a que trois lettres dans l'alphabet hébraïque, je ne sais pas si je vous avais expliqué une fois, qui ont un sens pour elles-mêmes dans le dictionnaire. Quelles sont ces lettres? Bête. Bête, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire bête? Avec ou bien? Dans, très bien. Par le moyen de, vous voyez, la lettre bête a un sens. En fait, du point de vue de la Kabbalah, dans l'étude du Lashon HaKodesh, chaque lettre a une signification. Mais dans le langage parlé, il y a trois lettres de l'alphabet qui ont une signification au niveau du dictionnaire. Alors c'est le bête qui signifie dent.
Le
lamed. Lamed qui signifie pour, vers, ouais. Et le cap. Qu'est-ce que vous avez comme mot? Quel? Et oui, ce sont les trois opérations de jugement dont le chien est capable. Il est capable d'établir ses relations. Alors, la pensée, elle est déjà dans le chien. Et effectivement, en général, vous retrouvez ça dans la littérature, le chien est réputé être animal intelligent. C'est ça, Amalek. Dès qu'on commence à faire ces opérations-là, le doute apparaît. Bien. Le shin, pas dans l'hébreu biblique. Dans l'hébreu biblique, c'est asher. Et le shin de l'hébreu rabbinique remplace asher. Le même, c'est possible, oui. Quelle est la signification du même? Oui, mais c'est l'abréviation de min, quand même, comme shin pour asher. Bien. Alors, j'attends la réponse, parce que là, je me souviens maintenant que nous l'avons étudié assez profondément. Quelle?
Mais est-ce que toute parole, pas pensée, donc quand on dit, quand on hésite entre pensant et parlant, est-ce que c'est pas finalement...
D'accord, c'est sûr. Il y a une sorte, apparemment, de la poule et l'œuf qui a commencé. Qu'est-ce qu'il y a d'abord, la parole ou la pensée? La pensée ou la parole? On aura ce problème tout à l'heure. Mais la pensée de l'être doué de parole est d'une autre nature de la pensée qui n'est pas nette, de l'être qui n'est pas doué de parole. Par conséquent, là, il y a un facteur à part. On va dire, je reprendrai ce point tout à l'heure, la parole exprime la pensée. Oui, mais est-ce qu'il y aurait pensé s'il n'y avait pas capacité de parole? Encore une fois, il nous est très difficile d'arriver à la véritable définition de la pensée qui est au-delà de toute image, même des images verbales. Quand vous pensez, que vous entendez en vous la voix qui formule, qui dit les paroles que vous pensez, c'est de la parole, c'est pas de la pensée. C'est l'image verbale de la pensée. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? La pensée pure est au-delà de toute image, même l'image verbale. Si par exemple, quand je pense table, j'entends en moi le mot table, c'est l'image verbale de l'idée de table. Mais je suis beaucoup plus occupé à imaginer un appui dans le monde des images à l'idée de table qu'à penser l'idée de table. On va faire un exercice tout à l'heure. Je vous demanderai, par exemple, de me définir une table. Oui, la fabrication d'un dictionnaire, c'est très difficile. Okay. Comment vous allez définir une table? Vous pouvez passer des mois et des mois et chercher une formule de définition de la table. Finalement, vous allez chercher le dictionnaire. Et puis, vous verrez que dans le dictionnaire aussi, on ne sait pas. L'objet de la science, c'est d'arriver à trouver des définitions exactes. Alors on peut, en général, dans la civilisation contemporaine, on s'est habitué, en fin de compte, pas tellement chez les latins, mais ça vient déjà chez les latins, ça vient des anglo-saxons, à définir par l'usage de l'objet. Vous voyez, dès que vous vous posez la question « comment définir un objet ?», vous vous demandez, on va dire à quoi ça sert. Par exemple, définissez un stylo. Voilà. Mais n'importe quoi peut servir à écrire. Et comment je vais... Imaginez que quelqu'un n'ait jamais vu, ne sait pas ce que c'est un stylo. Faites-lui une fiche signalétique et demandez-lui de construire un stylo à partir de votre fiche signalétique. Les seuls renseignements concrets que vous pouvez lui donner, c'est de fabriquer l'objet vu ce à quoi il sert. Mais la définition d'un stylo, qu'est-ce que c'est? Oui. Ou la définition. Finalement, on s'arrête à l'image. Ici, à l'image pratique, mais ça peut être à d'autres images.
Ah. Un stylo peut être fait par exemple, sa pointe.
Oui, alors ça pourrait être un porte-plume. Ça me rappelle, je vais raconter une petite anecdote. Non, c'est vraiment, là il y a un problème extrêmement important. C'est ça l'objet des sciences. C'est d'arriver à trouver les définitions exactes des choses, des corps, des objets, des substances. Et si on a la définition exacte, on connaît leurs propriétés. La définition exacte enferme les propriétés. Mais c'est toujours, vous voyez, propriété. À quoi ça sert? Nous sommes dans une civilisation finalement pratique, finaliste, dans le sens de à quoi ça sert. Mais l'essence de chaque objet, sa définition vraie, son nom vrai, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça enferme? C'est l'objet de la science d'arriver à, comment dire, définir les essences, mais la science occidentale a renoncé à ce projet de définir les essences, elle l'a rejeté comme métaphysique, comme inaccessible, et elle est devenue une science positive, à la limite positiviste, c'est-à-dire qui essaye de définir par l'aspect pratique. Okay? Par exemple, une minute, la meilleure définition d'une table, c'est une définition qui me permettra de construire la table. Oui, mais je suis au niveau des images. Et en fin de compte, des images pratiques. L'exemple que je me souviens, parce que c'est le premier qui m'avait frappé dans mes études, un jour j'ai cherché la définition de juif dans le dictionnaire Larousse. Bon, je vous laisse les définitions péjoratives, usuriées et tout cela. Juif, membre d'une religion qui est le judaïsme. J'ai cherché judaïsme, religion des juifs. Oui, c'est ça le dictionnaire. Okay. Juif, judaïsme, judaïsme, juif. Et qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Okay. Non, l'entreprise de la définition, c'est vraiment quelque chose de très difficile. Okay. Mais je reviens à ce principe. Peut-être que vous l'avez déjà pressenti par vous-même. La pensée pure est au-delà de toute image. Et ça fait partie de l'interdiction des images dans le décalogue. Okay. Tant que je pense à l'aide d'une image, c'est pas encore de la pensée, c'est de l'image. Par exemple, si je dis l'idée de cercle, et que j'ai dans ma représentation la définition du rond, eh bien c'est une image, c'est pas l'idée de cercle. Entendez bien ce que je veux dire, ça vient déjà de Platon, l'idée de cercle n'est pas ronde. Okay. C'est une définition. Pas pour mieux penser. Non, non, pas pour mieux penser, juste l'inverse. C'est parce qu'on n'est pas capable de penser qu'on est obligé de s'appuyer sur des images. Tu comprends la différence?
Est-ce que c'est cette...
C'est la pensée. C'est une réalité. On appelle ça en philosophie un être de raison. C'est l'être de vérité, alors que l'image est dans la réalité. L'image est déjà du côté du Homer. Alors que le cerveau... Justement. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est tout le problème de la culture humaine. Et nous avons rencontré ce principe très souvent. Et il n'y a que dans la conscience hébraïque qu'il y a cette option de foi, qu'il y a unité absolue entre le monde de la vérité et le monde de la réalité. Partout ailleurs, on pense à un dualisme entre la réalité et la vérité. Et on y consent, on s'y abandonne, on renonce. Et quel est le domaine où c'est le plus grave? C'est évidemment la morale. La vérité morale, eh bien, on va la contempler, mais on ne peut pas l'agir dans la réalité, parce qu'il y a décalage, incompatibilité entre le monde de la réalité et le monde de la vérité. C'est le drame de la conscience grecque, ce dualisme entre la réalité et la vérité. L'option qu'il y a une loi unique entre la vérité et la réalité, c'est le monothéisme. En fait, pour dire les choses plus vertement, on appelle ça une pensée moniste. Monisme. Mais tout monisme est dérivé du monothéisme. Par exemple, la science n'a été possible que sur ce postulat que la vérité mathématique, qui est une vérité de pensée, est applicable dans la réalité. À partir du moment où on a découvert ce postulat, alors la science a été possible. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'une formule mathématique rend compte d'une loi physique. La science moderne n'a pu être fondée qu'à partir de cette intuition moniste. Que l'ordre des choses de la réalité correspond à une vérité mathématique. Vous voyez? Et c'est, un savant fait des équations sur du papier, et puis finalement, on fabrique une locomotive et ça marche. Vous voyez le mystère qui se produit. Bon. Alors je reviens à ce principe. La pensée authentique est au-delà des images. C'est une intellection. C'est une opération de l'intelligence qui consiste à établir des rapports vrais entre des termes de représentation. Alors je vous reprends cet exemple de Platon, Vous voyez, dans la réalité, il y a des choses rondes. Et j'ai l'image de la chose ronde. Et puis, au niveau de la vérité, il y a l'idée de cercle. Mais l'idée de cercle n'est pas ronde. Elle est la loi de l'objet qui est rond. Mais c'est une idée, et une idée n'est pas ronde. Personne n'est allé plus loin dans l'analyse en disant, pour mieux éclairer cela, j'ai l'idée de chaleur. Mais l'idée de chaleur n'est pas chaude. Hein, c'est la même chose. Vous avez compris ? Un niveau un peu plus... On peut dire que l'idée de chaleur est chaude en poésie, mais c'est de la poésie, c'est pas de la logique. Qu'est-ce que tu veux dire, mec ? Qu'est-ce que...
Alors, dans le esprit, comment peut-on accorder à Dieu très attribué ? Comment peut-il avoir très attribué ?
Justement. Et ils ne peuvent être pensés qu'au niveau de la pensée sans image. Et... c'est-à-dire l'idée de l'unité a 13 dimensions. Et l'idée d'unité, c'est l'affirmation de l'unité de ces 13 dimensions. Et au niveau de l'unité, il n'y a plus de différence entre ces différentes dimensions. Plus bas, lorsque chacune de ces dimensions est isolée, abstraite l'une de l'autre, alors elle se concrétise en fin de compte dans un facteur de la réalité à laquelle elle correspond. Oui, le règne de la réalité, c'est la diversité, la pluralité. Alors que le règne de l'unité, le règne de la vérité, c'est l'unité. Il y a une très jolie phrase d'un des poèmes de Victor Hugo qui disait « Dieu ne compte que jusqu'à un ». C'est joli, ça. Et justement, le drame de la conscience, c'est qu'elle est écartelée entre deux mondes. Le monde de la vérité, qui est la pensée sans image, qui est le règne de l'unité, et le monde de la réalité, qui est précisément la représentation des images et la multiplicité. Ribouille, Ardout. Okay. Bon, mais je reviens à ce problème. La définition de la pensée, minute, c'est d'établir des liens entre des termes, et cela, l'animal est capable de le faire. Et vous connaissez ce qu'on appelle le conditionnement de Pavlov, par exemple. Alors, on établit des réflexes qui sont des réflexes de pensée chez l'animal. Et même si c'est plus ou moins inconscient dans le comportement de l'animal, et c'est pas nécessaire qu'il soit conscient au niveau du réflexe, le réflexe finalement devient inconscient et automatique, ça devient un automatisme. Finalement, il s'agit de comportements de l'ordre de la pensée, ou qui miment la pensée. Par exemple, la conduite de l'instinct mime la conduite de l'intelligence. Bon, alors revenons maintenant, si vous voulez, à la définition par la parole. Quelle est la grande différence entre la pensée la plus élaborée et d'autre part la parole? Si vous en souvenez pas, ça m'inquiète, parce que c'est quand même, ou ça veut dire que j'ai pas vraiment fait le cours à ce sujet. C'est parce que derrière la parole, il y a quelqu'un, alors que derrière la pensée reste l'impersonnel. Et nous savons aujourd'hui que la pensée la plus élaborée peut être impersonnelle. Par exemple, l'ordinateur. L'ordinateur a des comportements de pensée extrêmement élaborés, mais il n'y a pas quelqu'un dans l'ordinateur.
Vous comprenez ?
Tandis que derrière la parole, il y a quelqu'un. Et la raison pour laquelle la tradition juive a préféré la définition vivant parlant à vivant pensant, c'est une raison, encore une fois, d'ordre moral. Parce que cela fonde la dignité de la personne. Le sujet, c'est quelqu'un. C'est un sujet qui parle, alors que l'impersonnel pense. Alors le sujet, qui est doué de penser, va donner à la pensée une dimension d'envergure radicalement différente que la pensée naturelle la plus élaborée fuse de l'ordinateur qui reste impersonnel. Vous avez compris ? Comprenez bien une chose. Chez l'animal... En tout cas, l'animal évolue. Je reprends le cas du chien, par exemple, où, finalement, il y a des hommes qui ont apprivoisé des loups, et ils en ont fait des chiens. Et puis, en fin de compte, il y a une personnalisation par l'affection, ou par ce que vous voudrez, du lien entre un homme et un chien. Okay ? Comme si il y avait une individualité du chien qui ressemblerait déjà à une personne, okay ? Mais ça, c'est une humanisation. Vous comprenez ? C'est une projection de l'homme sur l'animal. En réalité, l'espèce animale tout entière est quelqu'un. Il y a un sujet de l'espèce, de chaque espèce animale. Il y a un effèche de l'espèce des chiens, si vous voulez. Et puis par famille, bien sûr. Mais chaque chien n'est qu'un individu impersonnel représentant l'espèce en question. Tandis que le cas de l'homme, en théorie, je vais nuancer tout à l'heure, c'est que chaque individu est une personne. On est quasi-personne. Il y a des niveaux. Mais en principe, chaque individu humain est une personne. D'envergure radicalement différente. Et vous avez à la limite des individus qui sont tellement brutes que peut-être la personne chez elle s'est évanouie, ne reste que l'individu, okay, qui ne serait qu'un exemplaire de l'espèce, et donc interchangeable, et donc impersonnel, et donc ouais, le golem. Okay. Ce serait un individu humain sans sujet, sans personnalité. Okay. Vous voyez la différence. Bon. Et bien, ce qui s'exprime dans la parole, c'est le quelqu'un de la personne. Voilà pourquoi les animaux ne parlent pas. Parce que s'il y avait chez l'animal comme chez l'homme, pas seulement le phénomène individu d'une espèce, mais le fait que chaque individu est un sujet, alors l'animal parlerait. Okay. Mais c'est l'espèce animale qui s'exprime à travers des signes. Mais ce n'est pas tel ou tel animal qui parle. Voilà, si vous voulez, grosso modo la différence. La raison pour laquelle on a préféré le vivant parlant au vivant pensant, c'est pour désigner la dignité du sujet, du quelqu'un de chacun qui est génial en lui-même, qui renvoie à une neshama individuelle. Alors que pour les animaux, il n'y a qu'une neshama de l'espèce. Vous avez compris? Et cette neshama de l'espèce, à sa racine, enfin, en haut, si vous voulez, est de très grande envergure. L'être lion, c'est un être colossal, qui a des qualités extraordinaires d'envergure, dépassant par certains côtés l'être homme, ou l'être aigle, je ne sais pas, ou l'être taureau, ou l'être araignée, mouche, peu importe. Oui. Donc il y a une manière d'être qui est, à l'échelle collective, une neshama considérable. Il y avait d'ailleurs énormément dans l'Antiquité des cultes où on adorait ces êtres-là. Quand ils adoraient les animaux, ne croyez pas qu'ils adoraient le chien sur la terre, ou ils adoraient l'être chien, ou l'être... Les modernes ont perdu le diagnostic de qui sont ces êtres-là. Mais la tradition les connaît. Alors je ne vous en parle pas, puisque c'est traditionnel, donc caché. Mais ce que je veux dire, c'est que chez l'homme, chaque individu est en principe doué d'un sujet spécifique, d'une personne. C'est cela qui s'exprime à travers la parole. Vous voyez, c'est clair? Je crois que c'est Buffon qui disait « le style, c'est l'homme ». Vous avez étudié ça dans vos études? Buffon, vous savez qui c'est? Grosso modo. Bon, il a eu cette expression « le style, c'est l'homme ». Je crois qu'on pourrait inverser l'expression. L'homme, c'est son style. On reconnaît quelqu'un, enfin, le quelqu'un de chacun s'exprime dans sa façon de parler. Vous voyez comment vous pouvez un peu l'illustrer. Et alors, vous voyez, la cinquième catégorie des êtres, selon Judas Lévi, est l'être dont la parole est parole de vérité, c'est cela le prophète. Bon, on se rapproche un peu de notre sujet. Ça va, c'est clair? Qu'est-ce que vous demandez? C'est deux questions un peu différentes. Comment accéder à la pensée sans image? Par l'exercice de l'abstraction. Par l'exercice de l'abstraction. Et puis, maintenant, pour ta deuxième question, répète la deuxième question.
Par l'exercice de l'abstraction, c'est par l'étude, dans la définition, par l'étude des...
Je veux dire, par l'exercice de l'abstraction, c'est-à-dire par le fait de s'attacher à la compréhension des significations et non pas des images. Je vais raconter une anecdote, ça m'a beaucoup frappé. J'ai passé dans mes études des études d'ethnologie, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, l'ethnologie. Bon, vous savez? Donc, bon, il y a 18 ou 19 disciplines dans cette matière. Et puis, en particulier, en ethnographie, de façon plus particulière, on avait à l'examen un exercice qui consistait à identifier un objet à faire la fiche signalétique d'un objet des sociétés primitives. Par exemple, on donnait à chacun, un tambour. Et puis, il fallait donc faire une fiche signalétique de telle sorte de pouvoir ensuite reconnaître l'objet uniquement à travers les renseignements qu'on avait donnés dans la fiche. Enfin, c'est en particulier quand il y a des explorateurs, des ethnologues explorateurs qui vont dans les sociétés inconnues, alors ils ramènent toute une documentation de fiches signalétiques qui sont ensuite mises en code et remplissent des fichiers au musée de l'homme. Vous savez ce que c'est, le Trocadéro, là ? Bon. Et alors, comme il n'y a pas de coïncidence, on m'a donné comme objet à faire la fiche signalétique un chauffard. Je ne sais pas si vrai. Un chauffard. Alors j'étais un peu compétent. Et l'examinateur était d'ailleurs assez interloqué parce que je suis même arrivé à lui dire que c'était un chauffard du Yémen et pas du Maroc. Et bon, alors on s'est mis à parler. Et puis alors, c'est là que je me rappelle que j'ai eu cette première conversation avec un savant. Il s'appelait le roi Gourand. Je ne sais pas si bien encore. C'est un très grand savant de l'ethnographie. Vous avez entendu parler de lui. Un type très sympathique d'ailleurs. De la pensée sans image. Et alors il m'avait avoué qu'il était incapable de savoir ce que c'est, la pensée sans image. Incapable. Okay. S'il n'avait pas une fiche signalétique, ne serait-ce qu'en image verbale, eh bien, il ne pouvait pas manier des concepts. Bon. Alors j'ai l'impression qu'on peut dire à la limite qu'il y a une affaire de tempérament. Okay. Il y a une option de l'être hébreu qui est qu'il porte en lui comme postulat que, quelles que soient les apparences, le monde de la vérité abstraite, au-delà des images, et la loi du monde de la réalité. Alors que dans le monde, je ne vais pas dire goy, mais dans le monde de la pensée naturelle, ce sont deux registres radicalement différents. Il a fallu faire une option de méthodologie que je pense que les Hébreux étaient derrière, colossale, pour arriver à travers les siècles à l'idée que c'est la mathématique qui est la loi de la réalité. Chez les Grecs, par exemple, la science a été bloquée parce qu'on n'arrivait pas à faire le lien entre l'ordre mathématique et l'ordre géométrique. Enfin, je veux dire l'ordre de la réalité. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et puis cette poussée s'est faite en Occident à travers Descartes. Elle a été préparée par beaucoup de philosophes du Moyen-Âge, mais c'est à partir de Descartes que la science a pu démarrer et a fait des progrès colossaux, ce qu'on a dit, oui, que vous connaissez, et catastrophiques, parce qu'elle a entraîné finalement la bombe atomique, et le reste. Et à partir de ce postulat qu'il y a un seul ordre, que l'ordre de la vérité, c'est l'ordre de la réalité. Et ça, c'est une option moniste. Alors finalement, je crois que ma réponse, peut-être je modifierai ça un jour, mais dans l'état de ma propre expérience, c'est que c'est une affaire de tempérament. Okay.
Deuxième partie de ma question.
Oui.
J'ai pas dit
que Platon était arrivé, il en a parlé, j'ai pas dit qu'il y était accédé. Par exemple, les idées de Platon, c'est pas les idées de Hegel, c'est pas les idées de Descartes, c'est pas les idées de Kant. Vous savez, chaque catégorie chez les philosophes, les idées de Platon, c'est des entéléchies, comme dirait Leibniz, enfin c'est des mots barbares, mais ça veut dire que ce sont des réalités que l'on connaît sous forme d'image. C'est encore ce que j'appellerais en registre théologique une pensée idolâtre.
Okay.
Attends, j'ai pas encore répondu. Non, tu m'as dit Platon. Platon, c'est pas évident. Non, parce que comme tu m'as cité par exemple Platon avec une autorité radicale. Non, fais attention. À la rigueur, chez Plotin, qui est un platonicien postérieur et qui est juif d'ailleurs d'origine alexandrin, mais enfin un peu comme Philon. Okay. Plus tard, mais chez Platon. C'est pas évident qu'il s'agisse d'une pensée sans image. Et alors, quelle était ta question ?
Si Goy peut accéder à cette pensée sans image, qu'est-ce qui l'empêche de voir en fait, que la réalité est cette.
Ah non, il peut en avoir l'option. Vous savez, à l'échelle individuelle, n'importe quel Goy peut être bestseller. Chassidé au motor, là. Il y a énormément, à l'échelle individuelle, d'égoïmes qui fonctionnent comme des juifs. Ça, c'est pas un problème. C'est ce que je vous appelle, c'est la pensée naturelle. Livrée à ses propres forces, eh bien, elle n'arrive pas à fonctionner au-delà. Et alors, elle est bloquée par ce, par sa propre expérience de la dualité radicale entre le monde de la vérité et le monde de la réalité. Maintenant, à l'échelle individuelle, énormément de bouddhismes ont eu l'intuition de l'unité dernière. Ça peut exister. Et je crois que c'est un tempérament qui joue. Okay.
Alors, à quoi sert la parole? Puisque vous nous avez expliqué qu'on peut vivre sans parler et qu'on peut penser aussi sans parler.
Attends. Chez les animaux.
A fortiori chez l'homme?
Non. La parole a deux fonctions. D'abord, la parole, c'est l'expression de l'identité. Okay? Mais très peu d'hommes, c'est ce que j'appellerais la parole de vérité. Bon, très peu d'hommes s'expriment à ce niveau. Mais d'autre part, la parole a une fonction très importante, qui est la fonction de communication. C'est la parole qui fonde le fait social. Et elle a... Ce phénomène de la communication a énormément d'handicap. A énormément d'handicap, pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène moral qui sous-tend ce problème. Si on est en paix, on se parle. Et si on ne se parle pas, c'est parce qu'on n'est pas en paix. À la limite, vous voyez, la seule parole authentique, c'est la parole de paix. Il y a un verset des psaumes, d'ailleurs, ça me gêne beaucoup, je ne peux pas pouvoir vous citer les versets. Enfin, vous familiariserez, vous y arriverez par vous-même, j'espère, par la suite. Il y a un verset où le roi David dit « Ani shalom, je suis la paix. Vechi adaber, mais dès que je parle, hema la milchama, ils sont pour la guerre. » La parole authentique, c'est un seul mot, c'est le mot de shalom. Quand on se parle, c'est pour se dire une parole de paix. Pourquoi on ne se parle pas? C'est parce qu'on a peur l'un de l'autre, qu'on n'est pas en paix, alors on ne se parle pas. On fait énormément de bruit avec la bouche pour ne pas se parler. Vous avez compris ce que je veux dire, la difficulté de la communication. D'ailleurs, cette espèce de bavardage qu'on appelle le psittacisme, qui consiste à faire énormément de bruit avec la bouche, à dire énormément de mots, mais pour cacher ce qu'on ne veut pas dire. Parce qu'on a peur de parler. Enfin, on a peur, je ne m'étais pas préparé à parler de ça, mais ce n'est peut-être pas le mot exact. On est dans le quant à soi, sur la défensive. Okay? Il n'y a de parole possible que si on est en état de paix. Et il en résulte que la seule parole authentique, c'est la parole de paix. De quoi ont parlé tous les prophètes? Du problème de la paix. Ceci dans le contenu.
Sans parole, c'est toujours de la violence. Hein? La communication de la parole et la...
Écoutez, je vais vous donner un exemple. Entre Caïn et Abel, vous avez remarqué, il n'y a pas de parole. Il n'y a pas de communication. Okay? Par exemple, à propos du problème du repentir, eh bien, finalement, n'importe qui, ayant fait n'importe quelle faute, est capable de se repentir si on le met dans une situation où il peut parler. Alors finalement, il parle. Et vous comprenez ce que je veux dire? Quelqu'un vous a fait du tort, alors on ne se parle plus. Okay? Puisque quelqu'un vous a fait du tort, on ne se parle plus. Bon, la seule manière d'amener à la teshuvah, c'est de le mettre dans une... Enfermez-vous avec lui 24 heures, et vous verrez qu'au bout de 24 heures, il finira par avouer sa faute. Okay? C'est-à-dire, il suffit de le mettre dans une situation où il peut parler. Et à ce moment-là, le repentir est possible.
La question de la parole, c'est le moyen de communication le plus dangereux que Dieu ait pu mettre dans lui accorder à l'homme. Parce que, donc, pourquoi est-ce qu'il y a une chimie entre la pensée et la parole?
Écoute, non, je vais te dire, ta question se rattache à un faisceau de questions que tu me poses habituellement, ça tourne autour du même problème. Okay? Il n'y a pas de doute que lorsque Dieu a créé l'homme, avec le problème qu'il lui pose, c'est un risque colossal que le mal se déchaîne sur Terre. Parce que l'homme est l'animal le plus dangereux. Okay? L'homme est par définition l'animal déprédateur. Comment on dit, déprédateur ou prédateur? Prédateur. Okay? Et la Gemara dit dans Baba Kama, un homme, même endormi, est dangereux. C'est vrai, mais ça vient à la racine. C'est-à-dire, avoir créé un être qui doit faire la preuve qu'il mérite d'être, et pour ça il doit être libre, c'est prendre tous les risques. Ça, il n'y a pas de doute, c'est depuis l'origine. Et par conséquent, le tikkun de cela doit être l'état de paix. Bon, le problème de la parole, du langage qui est parole, parce qu'il y a d'autres langages, par exemple, le chant est un langage. Okay? le chant, je veux dire la musique. Okay. Mais la parole, à proprement parler, eh bien, a deux fonctions. D'abord, l'expression de la vérité, et d'autre part, la communication. Mais pourquoi la communication est-elle empêchée ou handicapée? C'est à cause d'un problème moral. Parce que finalement, c'est la parole qui crée le fait social. Et le problème du fait social, c'est la paix ou la guerre. Parce que dès qu'il y a deux sujets, il y a la tentation de l'agressivité. Donc, c'est ce qu'on a commencé à étudier avec Caïn et Abel. Ou si vous voulez, je le dirais d'une autre manière, mais ça revient au même, la seule parole authentique, c'est une parole d'amour. Quand quelqu'un demande à quelqu'un d'autre, parle-moi, qu'est-ce qu'il veut lui dire? Il veut lui dire, dis-moi que tu m'aimes. Vous voyez à peu près le problème. Donc, et aujourd'hui, dans le stade de la civilisation, est un problème de communication. On n'a aucune idée à quel point chacun a son discours et la signification du discours de chacun n'arrive pas à recouvrir le discours de l'autre, bien qu'on emploie les mêmes mots. Vous avez remarqué cela. Et c'est la raison pour laquelle la communication au plus haut niveau, s'appelle la communion, ne peut se faire que dans un langage qui est au-delà de l'image. Parce que ce sont les images qui nous divisent. Et il n'y a que la signification qui peut nous unir. Alors, lorsque nous avons les mêmes implications dans les mêmes mots, on se comprend. Mais c'est au-delà des images. C'est les images qui bloquent. Bon, ça peut être compris comme ça. Vous avez compris le problème. Alors, en ce qui concerne ta question, il n'y a pas de doute que la cachérisation du langage, c'est l'effort d'abstraction. La vraie pensée, c'est la pensée abstraite. Abstraite de toute image. Et vous voyez à quel point nous sommes, en général, incapables de penser. On fait semblant de penser, mais en général on imagine. Et tu ne te feras pas d'image. Vous voyez à quel niveau le j'ai remarqué cela quand. Je voulais vous raconter d'ailleurs, puisque c'est l'occasion, mon dernier voyage était pour un congrès interreligieux qui se tenait à Paris de toutes les religions du monde. Et puis j'étais envoyé tout simplement par le ministère des Affaires étrangères. Il fallait quelqu'un qui parle français, c'est tombé sur moi. Bon, je ne regrette pas d'ailleurs parce que j'ai connu des sages de toutes les religions du monde. En particulier, ceux qui m'ont le plus impressionné, c'est les bouddhistes tibétains. Il y a eu un court-circuit entre nous qui passait par-dessus la tête de tous les autres. Et bien, j'ai remarqué cela, que impossible de se parler tant qu'on s'en tient aux implications avec l'image. Mais dès que je suis arrivé qu'avec le bouddhiste tibétain, les autres, c'était pas si clair que ça, parce qu'ils sont encombrés d'images, vraiment des idolâtres. Alors, les chrétiens, c'est les spécialistes. Et les musulmans parlant français, ça fait très chrétien. Vous n'avez aucune idée à quel point. C'est... Bon. Et alors, là, comment dire, la communication est possible au niveau de la pensée sans image. Au fond, on est arrivé très rapidement que lorsque le bouddhiste voulait expliquer une catégorie en tibétain, il me faisait d'abord demander par son interprète quel était le terme hébreu correspondant. Je sais pas, et l'interprète ne parlait qu'anglais, alors imaginez le... Mais, c'est très clairement arrivé, le public l'a senti, que les différents, on était 15 à la tribune, que les différents représentants des religions, comme ils disent, qui arrivaient à se penser, à se parler au niveau de la pensée sans image, disaient la même chose. En fin de compte, à la limite. Vous comprenez le problème? Bon. Non, les autres ont été un petit peu écrasés. Et j'ai eu c'était un authentique tibétain qui est venu d'ailleurs. Et comme il ne parlait pas le français, il avait un anglais qu'il traduisait. L'anglais traduisait en français, mais ça passait par sa tête d'anglais. Vous voyez Et alors, finalement, ils ont décidé que le prochain congrès serait à Jérusalem. À tel point, ils ont été impressionnés par le judaïsme. Mais ça, c'est une anecdote. Mais il y avait le shintoïste. Vous savez que c'est les shintoïstes? Le Japon, d'accord. Il y avait un shintoïste, un petit peu hérétique, j'ai l'impression, parce qu'il dit des choses un peu spéciales. Et alors il est venu me parler après. Il me disait que d'après les shintoïstes sont des anciens hébreux d'avant Abraham. Regardez comment on est dans les délires. Et que leur message devait être révélé à la fin des temps. Je vais vous dire pourquoi, ça va vous amuser. J'ai pas pris ça au sérieux, mais enfin, c'est bizarre. Et que d'après eux, la mission du peuple juif était achevée et qu'elle avait réussi. Alors ça m'avait un petit peu inquiété. Et alors finalement, j'ai compris de ce qu'il m'a dit que la mission du peuple juif, c'était l'exil. Et donc c'était fini. Et alors, mais voilà comment il a expliqué, il connaît d'ailleurs un peu l'hébreu, ce shintoïste, et voilà comment il a expliqué que leur message devait se révéler à la fin des temps, parce qu'ils sont à la fin de l'alphabet. Shin Tao. C'est joli. Tao. Que le Tao, c'est la dernière lettre. Voilà. Shin Tao. Alors, Shinto. Alors, à côté, il y avait un abbé. Lui, c'était le début de l'histoire. Sûrement, d'autant plus que juste à côté il y avait un CD, alors c'était un BSI. Bon.